Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Bonjour à tous, Chantal Doré au micro des Héros anonymes. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bienvenue à tous nos auditeurs, que vous nous écoutiez sur le câble, sur notre site Internet, à CKVL ou via l'une des plateformes de balado-diffusion. Aujourd'hui, aux Héros anonymes, nous entendrons des sujets qui pourraient sembler difficiles à accueillir, mais qui sont porteurs d'espoir. Le mot « espoir » figure d'ailleurs dans le nom de l'organisme que nous recevrons aujourd'hui, Parents Espoir. Si vous avez un téléphone cellulaire, vous avez sans doute déjà été réveillé ou surpris par le son strident d'une alerte Amber qui avertit la population lorsque l'enlèvement d'un enfant est signalé et que l'on craint pour sa sécurité. Parents Espoir œuvre pour que plus jamais on entende d'alerte Amber. Cet organisme se dédie à développer les capacités parentales et soutenir les parents aux prises avec des enjeux de santé mentale. On le sait, être parent, c'est pas toujours facile et on gagne tous à développer des trucs et des astuces pour mieux jouer ce rôle si essentiel. Nous accueillons donc Marianne Benny, directrice générale de Parents Espoir. Si le rôle de parent est parfois difficile, être un enfant qui ne peut compter sur ses parents peut l'être tout autant. Notre invité, que l'on reçoit également à l'émission, François Brouillet, malgré qu'il ait connu une enfance difficile, il a pu compter sur le soutien de Squat Basseville. Après avoir surmonté ses difficultés relationnelles, aujourd'hui, François redonne au suivant en siégeant sur le conseil d'administration de Squat Basseville et on le reçoit avec plaisir avec la directrice générale de l'organisme, Véronique Girard. On fait une courte pause et on accueille nos premiers invités. C'est si rare et précieux de pouvoir réunir à un même micro à la fois la personne qui dirige un organisme essentiel et l'une des personnes qui a bénéficié des services de cet organisme, surtout qu'aujourd'hui, nos invités témoignent vraiment de qu'est-ce que ça veut dire redonner au suivant. Alors, c'est un plaisir de recevoir Véronique Girard, directrice générale de l'organisme Squat Basseville, et François Brouillet, qui a été l'un des usagers et est maintenant adjoint juridique et secrétaire au conseil d'administration de l'organisme. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Mais vraiment, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter parce que ça témoigne concrètement de ce que Squat Basseville fait. Je vais d'abord peut-être demander à Véronique là, de mettre la table pour nous présenter ce que fait Squat Basseville.
Dans le fond, l'organisme a été ouvert ses portes en 99. On fête nos 25 ans cette année.
Bravo.
Nous, on a trois volets de service. On a un volet maison d'hébergement pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent à la rue ou qui sont à risque de s'y retrouver. Donc, on travaille en réponse aux besoins de base des jeunes quand ils se retrouvent à la rue, mais on est aussi dans des activités de prévention avec les jeunes pour prévenir l'itinérance. On a aussi un volet travail de rue. On a deux travailleuses de rue qui arpentent les quartiers centraux là, pour, dans le fond, devenir des adultes de référence au moment où les adultes de référence ne sont pas là. Je pourrais expliquer ça comme ça. Puis sinon, on a un volet résidentiel. On a 17 logements sociaux pour des jeunes de 18 à 25 ans qui se retrouvent à la rue ou qui sont à risque de s'y retrouver. C'est sûr que dans ce volet-là, on retrouve certains jeunes qui ont passé par la maison d'hébergement puis qui vont transiter vers notre volet résidentiel. Mais on a aussi des jeunes là qui, à la sortie des centres jeunesse ou en période d'itinérance, là, on va les intégrer dans un logement. Puis on mise sur la stabilité résidentielle pour que ces jeunes-là aient une transition vers l'autonomie.
Vous parliez des 12-17 ans, puis en même temps, vous parlez des centres jeunesse. Je sais qu'il y a un gros enjeu au niveau des enfants qui ont vécu en centre jeunesse, qui ont été placés à la DPJ, parce que lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, il n'y a pas nécessairement de ressources pour prendre la relève. Ça se peut?
Ben, on est plusieurs ressources à essayer de prendre la relève. Ouais. Avec le communautaire, le centre jeunesse travaille aussi à une prochaine ressource qui va essayer de prendre le relais. Mais je pense que on a un syndrome d'entonnoir, là. Il y en a beaucoup qui sortent pour ce qu'on est capable d'accueillir. Les centres jeunesse, ça a du bon. C'est des gens dévoués. C'est des gens qui sont remplis de cœur. On travaille avec eux régulièrement. Mais présentement, ils sont débordés. On n'a pas de famille d'accueil. Fait qu'on a beaucoup de jeunes qui vivent un phénomène de désinstitutionnalisation. Ce qui fait que ça déborde partout. En même temps, au Québec, on n'est pas super bon dans les transitions. Ce qu'on se rend compte, c'est et les sorties de prison, et les sorties de centre jeunesse, les sorties de centre hospitalier, on manque de bras aux sorties pour donner un coup de main.
C'est intéressant. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends qu'on nomme ainsi, on n'est pas bon dans les transitions.
Nous, on fait partie de plusieurs regroupements. Les organismes communautaires travaillent beaucoup ensemble. On fait partie, par exemple, du regroupement des Auberges du Cœur, mais aussi du regroupement pour l'aide aux itinérants de Québec. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les transitions sont difficilement vécues. Les sorties de détention, c'est pas facile. Les personnes judiciarisées, il y a de l'accompagnement, mais il y en a pas suffisamment. Ils sont pas prêts à sortir. La même chose pour les jeunes en centre jeunesse. C'est pas des milieux qui sont normalisants. Ils sortent de là avec des stigmas. Ils sortent de là avec des traumas. Faut travailler avec ces gens-là. Il y a des façons de travailler avec ces gens-là. Puis ça prend beaucoup de bras, puis présentement, on les a pas, malheureusement.
Mais quand vous dites qu'ici, au Québec, on n'est pas bon, est-ce qu'il y a des provinces canadiennes ou même encore certains pays qui ont développé des approches dont on pourrait s'inspirer pour mieux gérer les transitions?
Je pense que ça fait quelques années qu'on commence à regarder ce qui se fait ailleurs. Mm-hmm. J'ai assisté à l'automne à un colloque dans l'Ouest canadien. On était des gens de plusieurs provinces. Il y avait des gens d'Europe qui étaient là. Puis c'était vraiment la transition à la vie adulte. Des jeunes qui sont rejoints par les services sociaux dans leur enfance, la protection de la jeunesse. Il y avait des chercheurs qui étaient là. Il y avait des gens du communautaire. Il y avait des gens du gouvernement, des ministères. Fait que oui, on commence à regarder ce qui se fait ailleurs. Oui, il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs. Mais ça implique une réforme d'un système, d'une grosse machine. Ça implique de revirer une grosse machine à 180, ce qui n'est pas facile. Nous, on continue à travailler dans ce sens-là, essayer d'aider cette grosse machine-là à se revirer de bord, mais c'est pas facile.
Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un peu, avec tout ce qui se passe en santé, services sociaux, des réflexions peut-être de réforme, une belle avenue là, pour revoir un peu ce continuum-là?
Il faudrait.
Oui.
Mais je suis pas certaine, en tout cas.
Allez-y.
C'est une opinion très personnelle là, que je partage avec plusieurs directions communautaires, mais je suis pas certaine que de tout centraliser sur les épaules de 7-8 personnes, c'est la meilleure façon de faire. Surtout que l'expertise communautaire sera pas beaucoup autour de la table.
Oui.
Et l'expertise communautaire n'a vraiment pas été beaucoup consultée non plus dans cette réforme-là.
Oui, ben on sait aussi que la décision il y a quelques années de scinder santé et services sociaux n'a pas nécessairement été bien accueillie et avec raison.
Non, c'est ça. Puis en même temps, vous pouvez lire ce matin dans les médias du Québec, il y a une lettre d'opinion qui a été co-signée par le regroupement des Auberges du Cœur et toutes les Auberges du Cœur. On a un responsable de la jeunesse au Québec.
Ouais.
Dans le passé, c'était le premier ministre qui était responsable de la jeunesse au Québec. Il y avait une pression.
Ouais.
Maintenant, le responsable de la jeunesse, c'est M. Lacombe. M. Lacombe est député d'une région et aussi député de la culture. On est en train de noyer les services à la jeunesse dans le gros bouillon de la culture. c'est dangereux. On se sent pas compris. On se sent pas pris en... On se sent pas beaucoup pris en considération. Fait qu'on a, on a publié cette lettre-là ce matin. Est-ce qu'on est rendu au stade d'avoir un ministère de la jeunesse? Est-ce que ce serait vraiment ça, travailler en prévention?
Mais il n'y a pas eu, dans l'histoire du Québec, il n'y a pas déjà eu quelqu'un qui était titulaire de ce poste-là?
Il y a toujours eu des gens qui ont été titulaires du mandat de la jeunesse. Mais c'est toujours de tradition, ça a toujours été le premier ministre, si je me trompe pas. Ça se peut qu'avant le moment où j'en ai conscience, là, mais du temps où je me suis intéressée à ce dossier-là, du temps où j'ai pataugé dans le monde politique et communautaire, c'est le premier ministre qui s'en occupait. Maintenant, c'est ça. On le garoche à un député qui a pas nécessairement juste cette priorité-là à s'occuper non plus.
Ouais.
Malheureusement.
Ouais, je comprends bien les enjeux dans lesquels vous vous situez dans tout ça, puis on va avoir l'occasion d'entendre un peu l'histoire de François tout de suite après. Mais j'étais curieuse de voir un peu quel a été le premier service de Squad Basseville.
La maison d'hébergement pour ados. Puis au départ, c'était même pas, on pouvait même pas considérer ça comme une maison d'hébergement, c'était un refuge pour jeunes en fugue.
Ouais.
C'était ça le besoin qu'on a, que la communauté nous a mis au monde pour prendre soin des jeunes qui se retrouvaient en fugue. Parce que pour ces jeunes-là, c'est une absence de choix. C'est un moment où ils vont prendre cette décision-là en choisissant le moins pire. Ils vont être mieux dans cette situation-là qu'au point de départ.
Ouais.
Fait qu'on se dit que peu importe ce qu'on fera, il y aura toujours quelqu'un qui va se sentir mieux dans cette situation-là. Aussi bien mettre quelque chose en place pour en prendre soin, puis essayer de prévenir ces choses-là. Mais c'est une roue qui tourne, fait qu'il y a toujours de la relève, là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. On était un refuge de nuit qui venait en aide aux jeunes en feu.
Et
on a développé divers services avec les années pour répondre à plus de besoins.
Oui, on va parler un peu l'aspect prévention peut-être un peu plus tard.
Oui.
Mais j'aimerais entendre François, parce que François Brouillet, vous êtes un ancien utilisateur, maintenant sur le conseil d'administration de Squad Basseville. Mais si je comprends bien, vos premiers contacts avec l'organisme ont été un peu dans ces circonstances-là.
Oui, effectivement. Là, moi, j'ai été utilisateur là, de 15 ans jusqu'à mes 23 ans. Lorsque j'ai découvert le Squad Basseville, l'organisme, moi, j'étais un peu entre une sorte de vide juridique, là, que je puis dire, là, parce que j'ai eu un an d'hébergement au Centre jeunesse Le Gouvernail à Québec. Par la suite, lorsque mes problèmes de consommation là, ont été réglés, ils m'ont retourné dans mon foyer chez nous. Mm-hmm. Sauf que j'avais des problèmes avec mon père et ma belle-mère à l'époque. Disons des divergences d'opinion, mais mon père, lui, choisissait pour acheter un peu la paix là, avec sa conjointe. Et il choisissait de me mettre à la porte. La première fois que c'est arrivé, j'ai contacté l'intervenante que j'avais au gouvernail, Madame Racine, puis là, je savais pas trop quoi faire. Là, j'étais là, est-ce que je peux venir dormir au gouvernail? Elle me dit, ouais, mais non, ça prend un placement des parents, puis tu vas à l'école, tu travailles, tu n'as pas de problématique, fait qu'on peut pas vraiment t'aider. Et c'est là qu'elle m'a parlé du squat Basseville, ce qui m'a amené à aller à cet organisme-là. Et durant cette époque-là, lorsque j'utilisais la ressource, il y avait ce qu'on appelait un 3 jours de présence et un 2 ou 3 jours de carence. La carence, c'est que tu dois retourner dehors pendant 3 jours avant de réutiliser et revenir dormir là. Tu peux toujours venir, par exemple, prendre la nourriture et tout, mais moi, j'avais une problématique que je ne savais pas quoi faire durant ces 3 jours-là. Ouais. Alors, à l'époque, les intervenantes, dont Véronique, là, il y avait trouvé le moyen de créer un programme qui s'appelait à l'époque Envol, qui me permettait d'habiter là vraiment sur une plus longue durée que 3 jours. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la ressource. Là. C'était vraiment rendu une seconde maison, si je puis dire.
Vous avez été des grands frères, des grandes sœurs pour vous.
Exact. Oui. Oui, très certainement. C'était des personnes... je me sentais en sécurité là-bas. Je me sentais écoutée. Je sentais que je n'étais pas nécessairement en danger ou que... du niveau rien que de nous manger. J'avais de l'argent un peu, mais quand même, à 15 ans, on roule pas sur l'or. Là. Alors, rien que pour qu'est-ce qui est de cuisiner et tout, là, c'est quand même très aidant. Puis toujours une oreille attentive. Là. Cette situation-là, c'est pas mal perduré durant 3 ans, jusqu'à ma majorité.
Mm-hmm.
Ensuite, pour faire écho un peu à ce que Véronique disait, moi, je me suis retrouvé encore une fois dans un vide un petit peu juridique. La transition de 18 ma transition à l'âge majeur, je me retrouvais sans ressources parce que le squat Basseville, dans le fond, c'est une ressource pour mineurs. Ben, c'était une ressource mm-hmm. pour mineurs à l'époque. À mes 18 ans, en même temps de faire face à ce vide d'aide pour ma transition. J'ai également eu l'opportunité, de suite à l'invitation de la direction du Squat Basseville, de rentrer dans le conseil d'administration comme représentant des jeunes.
Mm-hmm.
Moi, durant mes 18 jusqu'à 20 ans, avec d'autres personnes là, autour de la table dans le conseil d'administration là, et des employés, il y avait un cheval de bataille qui m'intéressait vraiment et qui me tenait à cœur personnellement. C'était justement de créer une sorte de passerelle rendue à 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes? Et c'est là qu'à l'époque, avec les personnes autour de la table, on en était venu à trouver le projet. Et le projet, c'était les logements sociaux pour les majeurs. J'ai été le... Oui?
Bien, on revient en fait, François, encore à la question de devoir réinventer les transitions. D'ailleurs, je vous propose une petite transition de quelques secondes, puis on continue à écouter votre histoire et voir comment vous avez redonné au suivant.
Très bien.
Retour au Héros Anonymes. Nous sommes dans une grande discussion avec l'organisme Squat Basseville, qui est représenté par sa directrice générale Véronique Girard, également un membre du conseil d'administration, François Brouillet, qui a été un utilisateur il y a quelques années. Donc, il n'y a rien de tel que quelqu'un qui a vécu les services de l'interne pour vraiment bien nous parler de l'impact de cet organisme. Donc, François, vous avez senti le besoin de redonner au suivant parce que vous aviez bénéficié de ce soutien-là de Squat Basseville?
Oui, très certainement. Je crois que non seulement je me sentais un peu redevable mm-hmm. de toute l'aide qu'il m'avait apportée pour pouvoir me développer et me solidifier en tant que qu'adulte et également m'aider dans ma confiance en moi là, et mes moyens. Je crois que je me faisais un devoir là, de redonner à cet organisme qui, selon moi, encore à ce jour, est un organisme vital pour toutes les villes qui veulent être en santé socialement parlant.
Je sais que vous n'êtes pas intervenant, là. Vous siégez sur le conseil d'administration, mais est-ce que ça vous arrive, dans le cadre peut-être d'activités de financement ou autres, à côtoyer certains des jeunes qui sont soutenus?
Oui, comme vous le dites, moi je suis adjoint juridique et parajuriste chez l'évêque Lavoie avocat et mm-hmm. c'est pas vraiment mon domaine, mais par contre, durant divers événements, un peu moins dans les 5 à 7, là, ce qu'on appelle le PR, là, on voit moins les jeunes, mais parfois ça nous arrive, mais c'est surtout durant comme la fête qui va arriver là pour les 25 ans du squat, il va voir les jeunes. On a un représentant des jeunes également sur le conseil d'administration, le poste qui avait été créé pour moi,
vous, ouais.
a continué là, par la suite sans que je sois le représentant. Également, il y a à peu près un mois, 2 mois, j'ai reçu une invitation des jeunes du logement pour participer au souper hebdomadaire là, qu'ils font une fois semaine, là, si je ne m'abuse. Là, toutes les jeunes des logements qui veulent venir. Alors, j'ai assisté à ce dîner-là. J'ai pu rencontrer certains jeunes. Lorsqu'on a les conseils d'administration également, on les rencontre là, parfois. Là, fait que disons que j'ai une idée très, très globale et sur papier là, des jeunes, mais ayant vécu là... C'est sûr qu'à l'époque, j'en rencontrais plus, mais ça nous arrive, oui, à l'occasion, à l'AGA, à l'Assemblée générale, également annuelle, on rencontre certains jeunes là, qui viennent assister à cette réunion.
Mais François, ça doit faire tout un effet pour ces jeunes-là de voir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous avez entrepris des études en droit. Visiblement, là, vous êtes pleinement intégré dans notre société. Ça doit leur donner espoir.
Bon, moi, j'espère que ça leur donne un peu confiance qu'on peut s'en sortir parce que moi, je me souviens à l'époque, lorsque j'étais à leur place, disons que je pensais pas que j'allais retourner à l'école, je ne pensais pas que mes problèmes de consommation, je me souviens avoir déjà pensé, ouais, dans le fond, moi, j'ai raté le bateau. Je vais rester salaire minimum, puis garde, je vais essayer au moins, je vais être capable de me faire un peu d'argent. Puis, regarde, c'est mieux que rien que d'avoir des problèmes de consommation. Puis, j'avais fait un peu une croix sur ça, mais justement, avec mon acharnement, le squat Basseville, les intervenants, j'ai également pratiqué les sports de combat au Nova Gym à Québec. C'est vraiment, je pense, ça qui m'a permis de reprendre confiance en moi et de rêver. Puis, je pense que les intervenants du squat, c'est en tout cas, pour moi, je ne veux pas être chauvin, là, mais pour moi, c'est les meilleurs intervenants du monde. C'est vraiment, là, je pense que c'est les personnes les mieux équipées pour justement rallumer cette flamèche, pour leur permettre de rêver et surtout croire en eux. Parce que parfois, dans la pénombre, on est un peu seul et la montagne est tellement titanesque qu'on se dit, c'est impossible, là, je ne pourrais jamais remonter cette pente-là. Là. Mais je crois que les intervenants du squat, en tout cas pour ma part, ça a vraiment bien marché. J'en suis certain qu'ils le font avec tous les jeunes encore à jour.
François, c'est vraiment touchant ce que vous nous racontez. Et je me demandais, maintenant que vous êtes adjoint juridique, est-ce que ça vous arrive aussi de faire de la sensibilisation d'une certaine manière parce que les gens peuvent avoir des préjugés que, bon, on se ramasse dans ces situations-là parce qu'on manque de motivation, parce qu'on vient de familles difficiles, parce que X, Y, Z, et vous êtes un exemple concret qu'il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous amener à une telle situation.
Oui, non, effectivement. Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés là, à l'égard des personnes qui sont soit itinérantes, soit les fuyeurs. Moi, je ne venais pas d'un milieu qui était nécessairement pauvre. Je venais d'une famille moyenne, là, j'ai côtoyé beaucoup de personnes que leurs parents c'était des docteurs. À un moment donné, je pense que justement, l'ayant vécu, puis ayant des connaissances très partielles de l'itinérance, moi, dans mon milieu juridique, souvent, surtout avec les diverses entrevues que j'ai passées, j'essaie toujours de mettre un emphase sur le fait que c'est un peu comme la consommation ou les crimes, tu sais, ces expériences négatives-là n'ont que faire du milieu que tu viens. Là. Ouais. Je pense que ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Puis c'est vraiment faux de dire justement que c'est seulement les personnes qui sont plus en difficulté ou que moi je l'entends souvent. Là, j'en parlais il y a 2 semaines au travail après un 5 à 7 là, avec mes collègues. Mais leurs parents doivent consommer, leurs parents douter, une sorte de roue. Oui, parfois, effectivement, c'est le cas. Mais il y a d'autres fois, et je connais pas vraiment les statistiques, mais selon moi, c'est pas nécessairement 50-50% du temps. Je crois que ça peut varier d'une année à l'autre, puis ils viennent de n'importe où. À un moment donné, ces problèmes-là sont pas définis par combien tu gagnes, mais sont définis par combien tu es fort mentalement, émotionnellement parlant, tu sais, je pense que c'est pour ça que je suis n'importe qui. Là.
Puis que des organismes sont là pour vous aider. Avant de retourner la parole à Véronique, François, est-ce que je peux oser vous demander si ce que vous avez vécu vous a aidé à recréer un petit pont avec votre père?
Très certainement, oui. Écoutez, moi, je pense que... parce que j'avais oublié de mentionner, j'ai été utilisateur... le premier à signer pour les logements sociaux parce que c'était pas complètement désintéressé lorsque j'essayais de faire pousser ce projet-là parce qu'il y avait réellement une passerelle qui se faisait pas pour la transition vers l'âge adulte. Et moi, de 20 De 18 à 20 ans, ça a vraiment été une période extrêmement difficile. Ça, non seulement ça m'a coûté cher à cause que je devais aller des fois habiter dans un hôtel et tout, puis je retournais travailler, mais en plus, c'est que j'avais vraiment... ça s'était pas amélioré, mais à partir de 20 ans, lorsque j'ai habité au squat Basseville dans les logements sociaux, c'est vraiment là que j'ai recommencé à reconstruire la relation avec mon père. Et je peux dire, là, on arrive là, du mois de mars, là, on est allé faire un voyage à Londres, à Manchester exactement, pour aller voir la pièce Player King de Shakespeare avec Ian McKellen, qui est mon acteur préféré, qui joue Gandalf dans Les Seigneurs des Anneaux ou Magneto dans Les X-Men. Et c'est avec lui, puis ça faisait, je pense, à peu près 15 ans qu'on n'avait pas eu vraiment un plus qu'un souper ensemble. On est resté 5 jours ensemble, puis c'est dans les plus beaux moments que j'ai eu, puis que les ponts ne sont pas rien que reconstruits. Je pense qu'on a refait les assises et les fondations là, pour que ça soit encore plus solide qu'avant. Là.
Merci François, c'est vraiment une histoire touchante qui redonne espoir et Véronique, j'imagine que c'est ce que vous souhaitez à tous les jeunes qui passent par Squat Basseville.
C'est sûr, quand un jeune se retrouve chez nous, souvent il y a des bris dans son affiliation. Et on va dire qu'il est désaffilié socialement. Tu sais, François, à un moment, il était désaffilié de sa famille. Il a perdu confiance en lui. Il a perdu confiance en les adultes autour. Ils ont perdu... Tu sais, ces jeunes-là viennent, à un moment donné, à plein de pertes de confiance, même envers la société en général. Puis notre travail comme intervenant, quand il arrive chez nous, oui, c'est de répondre aux besoins de base. Oui, c'est de qu'il y ait une place à coucher, on peut laver leur linge, on va les nourrir, on va leur fournir des produits d'hygiène, on va être là s'il y a une urgence. Mais c'est d'abord et avant tout de créer une relation. Et c'est aussi d'essayer de créer un filet social autour d'eux. Dans la vie de François, ça a justement été d'essayer de garder un lien avec sa famille pour pas justement couper tous ces ponts-là puis qu'à un moment donné, il n'y ait plus rien à reconstruire. Avec la plupart des jeunes, on va essayer de les mettre en contact avec d'autres organismes, les mettre en contact avec les services pour que la journée où ils vont partir de chez nous puis vivre encore une transition, ben, qu'il n'y ait plus nécessairement besoin de nous.
Oui, ben, je pense que c'est ce qu'on
va faire.
Absolument. Véronique, c'est ce qu'on souhaite finalement, que l'œuvre pour laquelle on a été créé soit atteinte. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je souligne la fête pour vos 25 ans. J'invite à aller sur site Internet, réseaux sociaux, lire peut-être la lettre d'opinion également. Un grand merci, François, d'avoir témoigné de votre histoire et bravo, Véronique, pour tout ce que l'organisme fait. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci à vous. Très apprécié. Bonne fête. Journée.
Bonne fin de journée, au revoir.
Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
En introduction de l'émission, je parlais de l'alerte Amber. Cette alerte-là là, qui nous fait souvent sursauter des fois en plein milieu de la nuit ou dans le jour, qui témoigne en fait qu'il y a un enfant qui a été enlevé, qu'on craint pour sa sécurité. Et je faisais un petit peu un lien avec Parents Espoir qui, d'une certaine manière, vise un peu à prévenir ce type de situation. Et je me demandais si c'était un lien qui faisait du sens et on va le découvrir avec la directrice générale de Parents Espoir. Bonjour, Marianne Benny.
Bonjour, Madame Doré.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous agissez vraiment en prévention de ce type de situation comme les alertes Amber?
Bien sûr, mais faudrait-il pour cela que les parents appellent avant que ça n'arrive là?
Oui.
Plus on va faire connaître notre programme, nos services, c'est sûr que ça va être un avantage. Mais on va jusqu'à même vouloir réduire les impacts suite à des événements marquants de toutes sortes, là. Donc, on s'est spécialisé en santé mentale, mais on a ajouté à ça un volet de prévention contre la violence, c'est ça, les abus de toutes sortes, la négligence, même pour les coparents en séparation qui ont souvent des conflits, puis tout ça, qui fait que, oui, on peut aider à prévenir.
Et à quel moment on a besoin de vos services?
Dès que les personnes prennent conscience qu'ils peuvent être fragilisés à un certain niveau, au niveau de leur vie familiale, quelle que soit leur situation plus ou moins précaire, Ça peut être autant aussi les nouveaux arrivants qui connaissent pas nos moyens, nos services, les droits, la loi, la LPJ. Donc, c'est beaucoup, ça peut rejoindre aussi les Autochtones, puisqu'on va jusqu'à former maintenant, avec notre programme de formation, des parents pères aidants certifiés. Mm-hmm. Donc, ça peut être de toutes sortes de catégories, de cultures, quelle que soit leur religion.
Mais on va parler un peu plus abondamment des différents parcours. Là, je lisais qu'il y avait 5 parcours que Parents Espoir met de l'avant. Donc, oui. Donc, c'est de développer nos habiletés parentales, c'est ce qui est le trait commun.
Le trait commun, les habiletés parentales, mais on inclut aussi le côté personnel et social, mm-hmm. puisque ça fait
ça va ensemble.
Un équilibre aussi. Puis les saines habitudes de vie, parce que la santé physique et mentale, ben ça prend aussi qu'on peut gérer nos habitudes de vie, les routines pour les plus jeunes enfants, c'est important, donc avoir une bonne routine, tout ça.
J'imagine que c'est difficile quand soi-même, on a de la difficulté avec nos habitudes de vie, notre propre routine, de l'inculquer. Donc, je vois le lien avec le personnel.
Oui, mais il y a aussi qu'on manque beaucoup, en tout cas, moi, je suis de la génération des 65 ans et plus, là, dans une ou deux semaines même.
Joyeux anniversaire à l'avance.
Merci. Sauf que de mon jeune âge, la communication dite saine, là, n'était pas tellement valorisée, puis connue, tout ça. Fait que ça fait aussi partie de la programmation, de voir à ça, la gestion des émotions, comment mieux répondre à ses besoins émotionnels. La dynamique familiale rentre en ligne de compte. Comment chacun peut prendre sa place, son rôle, développer son pouvoir d'agir à l'intérieur de ça, quel que soit l'âge. Donc, c'est beaucoup de facettes.
C'est sûr que pour les parents de plus jeunes générations, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont été éduqués par des parents d'une autre génération qui justement, peut-être on leur avait dit, on pleure pas, les émotions, ça s'exprime pas, ou surtout pour les garçons, entre autres, qui deviennent à ce moment-là des hommes qui ont de la misère à nommer.
Toutefois, de plus en plus, je vous dirais qu'on a à peu près 40% de papas et 60% de mamans. Oui, ils s'ouvrent beaucoup à cette dimension-là, veux pas. Donc, ça représente des forces même pour notre programme parce que on ne distingue pas ni le genre, ni s'il y a un diagnostic ou pas, ou une dépendance quelconque. Fait que c'est ouvert à tous. Dans le fond, futurs parents, coparents et parents. Il y a même des grands-parents qui se joignent à nous.
Ben, ils font partie du réseau et je sais que vous utilisez la fameuse citation que ça prend un village pour éduquer un enfant. Donc, j'imagine que les grands-parents, ça témoigne un peu de ça.
Exact. Il n'y a pas seulement que ça, c'est qu'on ouvre la porte à des collaborations possibles ou du référencement parce qu'on considère notre programme complémentaire à ce qui existe, c'est sûr, mais on ajoute à ça la dimension parent-parent-aidant qui n'existe pas au Québec. C'est nouveau depuis 2020. Oui, depuis 2020, on va jusqu'à former des parents-parent-aidants, mais ça vient d'être reconnu par l'École de travail social, la certification de l'Université Laval. Donc là, on s'en va vers une autre dimension qui va ajouter quelque chose qui n'existait pas avant, qui fait que même les CIUS, les organismes communautaires existants peuvent engager soit à temps plein ou à contrat des travailleurs autonomes parents-parents-aidants.
Et donc, pour être un parent aidant, parent-père aidant, donc je lisais même la certification, le PPA, certifié PPA, donc forcément, si je comprends bien, c'est qu'on a soi-même vécu la situation de l'intérieur?
Oui, exactement. J'en suis une des premières là, qui a été formée pour pouvoir mieux gérer l'organisme. Je recevais des parents. Moi, j'ai été de 2004 à 2011 sous le conseil d'administration, ce qui est totalement différent que d'être en emploi depuis 2016 à titre de directrice. Bien, avant, c'était coordonnatrice, maintenant directrice. Mais quand je recevais des parents, je me disais, comment je peux faire pour mieux les aider sans être une intervenante moi-même. J'avais terminé malgré ma grande phase de dépression des années 90.
Oui, vous avez passé à travers ça, hein?
Oui. Mais j'ai quand même été en mesure de retourner aux études à mon rythme puis finir mon bac en administration. Mm-hmm. C'est ce qui fait que je suis retournée sur le marché du travail et c'est là que j'ai connu le communautaire en santé mentale. Puis en 2016, quand j'ai été engagée à temps plein, j'avais fait un cours de maîtrise en planification stratégique. De là, on a créé une concertation avec des partenaires, les membres de notre organisme, c'est sûr. Puis de là, on a produit le programme. Depuis ce temps-là, on l'a vécu même durant la COVID. Ce qui fait qu'on a été de présentiel à l'offrir en ligne. Puis maintenant, il est strictement en ligne. Bien que plus on aura de parents par aidant formés dans différentes régions, mais ceux-ci pourront intervenir avec les parents, même se déplacer, soit pour les accompagner, si toutefois ils sont impliqués au niveau juridique avec la DPJ, à la cour, un avocat, les ressources plus spécifiques selon leurs besoins. Donc, on a quand même un grand rôle à jouer, mais on se place au même niveau que les autres, dans le fond. Oui. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des experts. Bien qu'on se dise des experts de vécu expérientiel.
Oui. L'école de la vie, mais là, l'Université Laval permet d'ajouter des compétences parce qu'effectivement, on peut être dans un vide de se dire, bon, on n'a pas d'intervenant, donc on peut rien faire, mais si au moins on a quelqu'un à qui a le vécu de l'intérieur, mais à qui on donne une formation un petit peu plus cadrante et structurante, ça fait de l'aide de plus.
Exactement. Ben dans le processus de rétablissement, si on parle de santé mentale ou de toutes sortes d'autres situations, il y a toujours des phases où tu es dans le déni. Tu peux être dans le déni, après ça, tu es dans le haut. OK, là, tu comprends, tu acceptes, mais en même temps, ça a tellement fragilisé que tu peux donner plus d'importance à la situation qu'à ton propre potentiel de t'en sortir. Ce qui fait qu'avec l'aide puis l'accompagnement, là, on encourage la personne à aller vers ses buts, vers la réalisation puis sa responsabilisation aussi. En vue de changer sa situation puis l'améliorer. De là, on peut arriver à couper les cordons ombilicales d'une génération à l'autre qui risque de faire que ça se transfère d'une génération à l'autre puis que les risques soient plus dramatiques plus ça va, plus c'est dramatique. Là. On en voit même malgré justement dans la période de COVID. Là.
Oui, j'imagine que ça, parce que là, les parents, les familles étaient toujours ensemble de un, les enfants n'étaient plus à l'école, donc là où peut-être il peut y avoir une écoute, une aide, donc dans les familles où il y a des difficultés, ça devait être parfois un huis clos là, qui n'est pas facile.
Bien, c'est souvent la peur d'être jugé ou même d'avoir un signalement, de se faire enlever la garde. Toutefois, on sait que dans certaines situations, c'est un plus. Là, je veux dire, il le faut, mais ça ne veut pas dire que de ce fait-là, que ça peut rester comme ça. Il faut contribuer à collaborer avec la DPJ puis les parents de plus en plus pour qu'ils avancent dans leur cheminement puis que ça puisse réguler la situation le plus vite possible. Tu sais.
Oui. En parlant, Marianne, plus concrètement là, des 5 parcours qui existent à Parents Espoir.
OK. Mais dans le but d'avoir moins de listes d'attente.
Oui.
Hein? Ben, on a
des listes d'attente à quel endroit là, pour vos programmes, vos services?
Ne serait-ce que CLSC ou autre. Oui. Là, c'est qu'on s'est dit qu'il faut avoir une activité continue qui peut répondre à tout besoin, à tout moment, à des parents. Donc là, dans ce cadre-là du parcours continu, on offre premièrement l'atelier d'accueil et d'orientation à toutes les 2 semaines pour accueillir les nouveaux parents, c'est ça. On les réfère à ce moment-là à 2 groupes d'entraide présentement, puis plus on propagera dans d'autres régions, plus il y aura de groupes d'entraide. Et ces groupes-là sont ouverts le jour ou le soir à raison de 2 heures par semaine. Ils voient les principes de base là, du rétablissement, des déterminants de la santé, des besoins émotionnels à répondre. Après ça, on a un atelier qui les aide à comprendre leurs droits et leurs devoirs, la loi aussi. Mm-hmm. Ça peut avoir des impacts, ça peut les impliquer. Le parcours, lui, parcours qu'on appelle ponctuel, c'est toute forme d'atelier qui se donne à des groupes de 8 à 12 parents. Je vous dirais que ça peut représenter 7 à 8 ateliers présentement, mais plus ça va aller, plus on peut en développer. La différence entre un atelier, exemple, parent guide, parent complice, ou triple P ici dans le, au niveau du CIUS de la capitale nationale pour les pratiques parentales positives.
OK, d'où le 3P, là, pratique parentale positive, oui.
Exact. Ou bien, c'est plus pour les habiletés parentales positives de toute façon, là, tout le parcours ponctuel. Lui, on va toujours jumeler un parent par aidant à un animateur ou deux animateurs invités experts dans leur domaine. Donc là, on s'assure qu'ils peuvent avoir un suivi aussi par le fait qu'on implique les parents par aidant à la coanimation.
Donc, l'animateur invité, lui, a des techniques, ce qui fait que ça reste à un niveau... Bon, malgré la certification des parents par aidant, j'imagine que l'animateur peut voir si jamais ça se dérape dans le trop personnel ou autre, il va être peut-être en mesure de recadrer.
Bien, aussi donner des expériences, de son vécu expérientiel, là, donner des exemples concrets. Puis comment lui-même, il a pu rétablir sa situation, que ce soit... exemple, si le parent était violent verbalement envers ses enfants, ben comment il peut mieux communiquer sans être violent, puis planifier même comment s'y prendre avant même de prévoir comment il va le réaliser concrètement. Là, il y a le petit plan, puis de là, il vit une expérience qui peut être adaptée au fur et à mesure en vue de vivre une expérience positive. De là, ben il peut se redonner des objectifs différents. Un coup qu'il a déjà réalisé, ben c'est le même moyen ou la même méthode qu'il peut utiliser. Bon, on développe aussi dans le parcours ponctuel nos propres ateliers communs sur le co-développement. C'est alors les parents deviennent des animateurs, clients ou consultants eux-mêmes.
On s'entraide entre eux.
Exact, oui. Pour faire leur petit plan ensemble et le réaliser puis s'encourager. Fait que c'est quand même adapté aux besoins des parents, les sujets là, qui peuvent varier. Mm-hmm. Ensuite, le parcours spécifique, c'est lorsqu'ils ont des besoins vraiment particuliers, exemple pour la recherche de logement, de banque alimentaire.
Ouais, puis Dieu sait que c'est des sujets difficiles ces temps-ci, hein, recherche de logement, l'impact sur l'alimentation.
Mais là, on va plutôt les référer aux ressources de leur milieu qui sont appropriées. Mm-hmm. Mais les aider dans cette démarche-là. Ensuite de ça, il y a le parcours spécialisé qu'on appelle, c'est pour strictement la formation des parents par aidant. Donc, il y a 220 heures de formation, incluant un stage de 72 heures qu'on accompagne, qui ont ensuite une communauté de pratiques qu'ils peuvent échanger ensemble de semaine en semaine, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs défis. Puis le dernier parcours qui va être plus développé à partir de 2025, si on reçoit le beau financement qu'on attend du ministère de la Santé, ce serait pour former des futurs groupes d'entraide dans d'autres régions qui pourront partager ce programme-là en ligne. Et de là, on formerait le réseau qu'on appelle le réseau GESPER, G-E-S-P-E-R. Pour groupes d'entraide et de soutien de parents engagés dans leur rétablissement. Et ce serait géré par et pour les parents avec l'aide de collaborateurs sympathisants.
C'est un beau projet, Marianne Benny. On prend une courte pause et de retour, on élabore un petit peu plus là, sur les programmes et l'impact de votre organisme Parents Espoir.
Parfait.
dernier bloc des héros anonymes. Ici Chantal Doré au micro qui vous accompagne chaque semaine pour découvrir des héros anonymes. Et on a le plaisir de poursuivre la discussion avec Marianne Benny, directrice générale de Parents Espoir. Je trouve ça extraordinaire, là, tout ce qui se trame, qui se développe comme projet. Donc, on espère vraiment là, que peut-être les bailleurs de fonds sont à l'écoute pour soutenir votre excellent travail.
Non, mais merci. On invite aussi les entreprises privées intéressées à financer une partie de... Parce que notre animation, quand on invite les experts invités de l'externe, mm-hmm. on doit financer ça aussi. Ça représente présentement 15 000 $ à peu près par trimestre. Tout ce qui est le reste, c'est sûr que ça vient du financement récurrent du ministère de la Santé. Bien que quand on parle de projet de développement du réseau J'espère, là, qui pourra faire que le programme J'espère lui-même sera partagé, ses 5 parcours et tout ça, là, ça peut être du présentement du financement ponctuel venant des gouvernements aussi, autant du côté canadien que québécois, mm-hmm. mais tout ça en vue d'évaluer les retombées puis qu'ils puissent investir de façon récurrente par la suite. Fait que les autres, il faut leur prouver là, ce
ouais.
processus-là. Mais vu que nous, on le voit dans la capitale nationale que ça porte des fruits, tu vois, on a présentement, je me permets de vous dire, tu, là, madame de...
Allez-y, madame vas-y, Marianne.
OK. On a 260 parents inscrits à notre programme. Fait que ça fait que si on répand ça dans d'autres régions, si on multiplie, ben peut-être qu'on peut arriver à diminuer finalement, au bout du compte, les signalements. Tu sais, on en parle tellement. Puis même la commission Laurent disait qu'il faut multiplier les collaborations pour arrêter de travailler en silo.
Ah, tellement.
Quand on voit, moi j'accompagne même des parents personnellement à la cour parce que j'aime cette dimension-là. Mm-hmm. Puis les avocats, quand ils sortent des salles, parfois, ils oublient qu'on évolue en matière de parentalité santé mentale. Puis là, ben, on leur parle de notre programme. Même les juges, je trouve ça super. Fait que là, c'est de plus en plus qu'on nous réfère. T'sais. Donc, c'est à venir. Mais c'est un processus qu'il faut... Pour le permettre qu'il soit durable, c'est sûr, il faut du financement.
Ouais. Ben c'est sûr que à peu près tout le monde là qui est à l'écoute a été interpellé par la fameuse histoire de la petite fille de Granby où on s'est demandé ce qui s'était passé avec la DPJ. Des histoires ouais. comme ça où les ressources ne suffisent tout simplement pas malgré la bonne volonté des gens qui sont là. Donc moi, je vois ça tellement évident de si on est en mesure de faire en sorte que les cas ne se rendent pas jusqu'à la DPJ, ben on en ce moment-là, si les vrais cas qui sont extrêmement sérieux, ben on va être capable de les réchapper.
Exact. Puis de là, je trouvais qu'il manquait une clé importante, c'est que les parents qui se rétablissent eux-mêmes sont les meilleurs porteurs d'espoir de concret, là, tu sais.
Oui.
Puis on travaille, dans le fond, pour ça, que ce soit la DPJ, CIUS ou autre, hein, expert. Donc, faudrait pas se lésiner sur le fait d'avoir à multiplier ce genre d'intervention-là qu'on dit spécialisée en santé mentale pour les parents, là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de l'ouverture encore et beaucoup d'obstacles à contrer, c'est sûr, mais c'est en se mettant ensemble avec ces différents niveaux qu'on peut y arriver.
Puis l'espoir, hein, c'est au cœur même de votre nom. Marianne, j'aimerais ça peut-être voir de quelle manière vous avez des relations de partenariat, peut-être avec les CLSC ou autres endroits où il y a des cours prénataux pour les futurs parents?
Ben, nous, on fait partie, dans la région de la capitale nationale, de plusieurs tables de concertation, dont mm-hmm. la table périnatalité, avec les ressources qui travaillent spécifiquement au niveau de la périnatalité, qui veulent que leurs futurs parents ou nouveaux parents puissent avoir des formations. Ils peuvent, des formations complémentaires à ce qu'ils peuvent offrir eux-mêmes, là. Ils peuvent les référer au programme J'espère sans perdre le suivi au niveau de leurs nouveaux parents, futurs parents. La table aussi de violence conjugale qui est très importante et qui fait qu'on peut collaborer, même être formé comme les intervenants de la DPJ au niveau du programme de prévention des enfants de la violence conjugale, PEVC qu'on appelle. puis que le ministre Carman croit beaucoup à ce programme-là. Nous-mêmes, on peut collaborer à ce niveau-là, là, soit pour détecter ou même réduire les impacts, là, quelle que soit la forme de violence, puis même ça va jusqu'à l'abus sexuel. Là. Mm. Donc, ça va loin, mais il reste que on voit encore que, supposons qu'on accompagne un parent à la DPJ, on voit encore que on peut, il y a des intervenants qui peuvent axer beaucoup, beaucoup sur le problème de santé mentale ou de dépendance du parent, en oubliant qu'il peut évoluer aussi à ce niveau-là. Fait qu'on vient contrecarrer nos efforts à ce moment-là. L'argent là, qu'on investit de part et d'autre, là, si ça s'annule, les effets, là, c'est pas très, très bon. Pourquoi? Pour travailler sur la sensibilisation, sur les préjugés, les tabous.
Oui, parce que c'est sûr, de l'extérieur, on peut se dire, ben voyons, ils sont inadéquats, ces parents, mais il n'y a personne qui est à l'abri d'une dépression et d'être cloué dans ton lit, puis tu n'es pas en mesure, tu ne te sens pas assez fort pour t'occuper de tes enfants. Puis là, il y a la honte qui embarque par-dessus ça. Donc, vous le dites, là, faut
alors qu'on oublie que ça peut être un processus temporaire.
Oui, oui.
Qui, dans le temps, peut évoluer. Puis je vous dirais que en regardant exemple des parents qui ont auparavant eu le placement de leurs enfants jusqu'à 18 ans. OK, j'ai une maman entre autres là elle avait un diagnostic de schizophrénie. C'est sûr que là il y a eu ce placement là, OK, mais il n'y avait pas les services dans le temps. Fait que elle me dit Marianne, tu devrais prendre le cours parent guide parent complice entre autres. Parce que moi, je l'ai suivi, mais on ne le reconnaissait pas que j'avais fait ces efforts-là, ou elle n'avait pas eu assez de soutien, d'accompagnement, tout ça. Mais c'est elle qui nous a proposé ce programme-là, qui fait que depuis, c'est le programme qu'on priorise pour la formation des parents par aidants, en plus d'autres formations, dont le programme pour les parents aidants de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, qui est affilié à l'École de travail social, c'est l'Université Laval. tout ça pour dire que même ces gens-là, ces parents-là, ils s'impliquent, ils continuent de s'impliquer. Pourquoi? Que ça donne un sens à leur vie. S'ils risquent de retrouver des liens avec leurs enfants éventuellement, ben ils auront développé un peu plus d'habileté en continuant, en poursuivant leur démarche, tu sais.
Donc, je comprends. Vous dites s'ils retrouvent des liens, donc ça peut être des parents dont les enfants sont placés, mais qui, eux, continuent à cheminer pour pouvoir éventuellement les revoir avec eux.
Oui, comme une décision de la cour, supposons, qui ferait que les enfants seraient placés aujourd'hui jusqu'à l'âge de 18 ans, ça ne veut pas dire que le parent, par la suite, ne pourra pas se représenter si, en montrant qu'il y a eu des changements significatifs, qu'il s'est investi, tout ça, puis qu'il y a le soutien, il y a le filet de sécurité autour de lui. Donc, c'est ça, tu sais, il faut donner aussi à César ce que César, les efforts, mais de là, les efforts qui devraient être faits aussi au niveau du ministère pour reconnaître. Comment on va dire? On peut pas dire reconnaître ces efforts-là, mais qu'ils travaillent à ce que les autres dimensions, comme la DPJ, puissent faire des efforts de reconnaître ça.
Puis moi, en tout cas, je suis une ardente défenseresse de la prévention, et une petite anecdote comme ça, quand j'ai pris mes cours prénataux, j'habitais dans un quartier qui n'était pas nécessairement, le CLSC sur place ne voulait même pas que j'y assiste, parce qu'il disait « Vous êtes trop différente des gens qui habitent ici ». Et j'étais témoin vraiment d'un miracle où tout à coup, une mère, quand elle a compris que l'enfant, un jour, va comprendre qu'il tient lui-même sa cuillère et que s'il l'échappe à terre, c'est parce qu'il est fier de faire quelque chose et non pas pour lui tenir tête. Et j'ai vu le « Ah, OK, je pensais que c'était pour me tenir tête, hein, ça serait pas bien passé ». Et là, on voit à quel point l'éducation, c'est fondamental au niveau de la prévention.
Oui, exactement. puis c'est de là où on parle de répondre aux besoins émotionnels.
Oui.
Pas juste aux besoins extérieurs de l'enfant, mais aux besoins aussi émotionnels, comme ça devrait être plus aussi dans les écoles même, là, mais ça, on avance, on évolue en tout cas.
Ben, je vois qu'il y a encore tout plein de projets pour les prochaines années.
Oui, en passant, je trouve qu'il nous reste beaucoup de temps, là, mais c'est
pas malheureusement.
OK. Mais le programme de soeur a été conçu à partir des critères du programme de participation sociale du ministère de l'Éducation. OK? Quand on était en présentiel, il nous subventionnait une partie d'animation et du matériel. Mais maintenant qu'on est en ligne, durant la COVID, il a accepté de subventionner. Puis, suite à la COVID, là, le subvention a tombé. C'est là que on a besoin nous-mêmes de financer les contrats d'animateurs externes.
Marianne Benny, Parents Espoir, on vous a entendu. J'espère que ce sera la même chose pour les bailleurs de fonds. Merci d'avoir été avec nous. C'est ainsi que se termine cet épisode des Héros Anonymes. Merci à notre équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessiange en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Je vous invite à écouter les autres épisodes des Héros Anonymes sur canalem.vuesetvoix.com. Et la semaine, nous sommes de retour avec toute l'équipe pour vous présenter à nouveau des gens qui changent le monde et qui font la différence au quotidien. Merci beaucoup, à très bientôt.